Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Bonjour, nous sommes le lundi 5 juillet, les 19h, vous écoutez Radio Campus Paris, et pour la dernière fois de cette année, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, la relève depuis un an et pour cette dernière fois de cette année, c'est 15 minutes avec un invité à l'aube d'une longue carrière, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Aujourd'hui on va parler de ces étranges choses qui nous dépassent, mon invité est écrivain et il se pourrait bien qu'il soit aussi poète. Bonjour Simon Berger.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous êtes auteur de Jacob, un deuxième roman publié aux éditions Gallimard. Votre premier roman s'appelait Laisse aller ton serviteur et avait été publié aux éditions José Corti. Alors quand on ouvre votre livre, on se dit tout de suite qu'on est chez un auteur savant, avec cette citation en exergue qui est écrite en grec ancien. Est-ce que vous pouvez nous la traduire ?
Oui, alors je suis un helléniste débutant. Donc,
c'est une citation de Marc Aurèle.
Une citation de Marc Aurèle, exactement. Qui, au dire d'amis hellénistes beaucoup, beaucoup plus savants que moi, est absolument intraduisible. Et il se trouve.
Ça ne m'étonne pas trop une fois qu'on a lu le livre.
Ouais. Il se trouve que cette citation dit en substance bientôt. Tu auras tout oublié et bientôt tout aura oublié.
Tout aura oublié.
Tout aura oublié.
Ou tout aura. Ah oui,
toutes choses t'auront oublié. Voilà, une citation très ramassée, très concise et donc intraduisible. Et j'aimais bien l'idée de ce frontispice un peu mystérieux. Il y a Queneau qui faisait ça aux portes de ses livres, qui mettait comme ça des phrases grecques, comme un frontispice, comme une phrase gravée au fronton d'un temple. Et j'aime bien cette idée.
Bah c'est très joli, les lettres grecques.
Entrer dans un mystère.
C'est très
comme
joli,
ça, voilà.
Les lettres grecques de plus.
Et puis j'allais pas traduire avec mes pauvres moyens cette phrase du grand Marc Aurèle.
Alors pourtant, l'histoire que vous allez raconter après cette citation, c'est le destin de Jacob, qui n'est ni un empereur ni un philosophe. C'est le deuxième fils d'une famille de fils de vent, autrement dit de Romain Michel.
Oui, exactement. Exactement. Et
il est...
Oui, oui,
quel est le lien entre lui et Marc Aurèle ?
Ouais, très bonne question. On dit souvent, pour rester sur Marc Aurèle, que le stoïcisme est la seule philosophie dont les deux grands représentants sont un empereur Marc Aurèle et un esclave Épictète. Et j'aime bien cette idée que, dans les bas-fonds, il y a une sorte aussi d'aristocratie. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé aussi de traduire, c'est que chez Jacob et dans ce peuple, chez les bohémiens, comme on dit, il y a aussi une sorte de morale presque aristocratique. On retrouve ça aussi dans une certaine morale paysanne, une forme de jansénisme moral, d'austérité très noble. Et je crois que là-dessus, il y a un parallèle à faire, en effet.
Alors on va le dire tout de suite, hein, vous êtes normalien et vous étudiez la philosophie, donc ça situe peut-être aussi le début de notre conversation. Mais
ce sont là les moindres défauts.
C'est pas un défaut, c'est au contraire, c'est une qualité. Ce qui est intéressant chez les Weiss, donc, qui est la famille de Jacob, en tout cas le personnage principal a des fous. C'est pas vraiment un héros, c'est plutôt le personnage principal du roman, on est d'accord. C'est une famille nomade, mais qui déjà à l'époque a fait le choix de se sédentariser. Et je me disais que pour un romancier, c'était intéressant, ces personnages qui sont pas vraiment dedans et qui ont un pied dedans et un pied dehors. Ça
oui,
vous a intéressé, ça ?
Oui, oui, exactement. Je trouve ça fascinant. Pour mon premier roman, que vous avez eu la gentillesse de rappeler, je parlais finalement d'un jeune homme qui s'extrait d'un contexte bourgeois pour aller marcher, pour aller faire le bohémien. Et là, c'est un bohémien qui vit à la manière des sédentaires. Et qui, en plus, va se confronter, se heurter au monde des sédentaires, précisément, qui, lui, finalement, il est dans une sorte d'entre-deux, dans une espèce d'indécidabilité. Est-ce que c'est un voyageur ? Est-ce que c'est un sédentaire ? Et finalement, le roman est aussi axé autour du choix qu'il devra faire.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il vit dans une roulotte immobile. C'est très joli. Cette idée de roulotte qui ne roule pas, effectivement. La question de la porosité des milieux sociaux, elle est même au cœur de la tragédie qu'il va vivre.
Oui.
C'était
oui.
Ça qui vous va, c'est presque racinien, enfin oui, je sais pas, c'est racinien, mais en tout cas c'est très tragique au sens noble du terme.
Exactement, d'où aussi peut-être l'intérêt d'une citation grecque, enfin en grec en tout cas. En effet, il y a quelque chose là-dedans évidemment de l'ordre de la tragédie, d'une imperméabilité, d'une sorte de tabou que mon personnage va tenter de franchir, et ne va donc pas franchir, puisque... Finalement, on le sent, je crois, assez vite dans le livre. Il est finalement assigné à son destin, qui est d'être un enfant du peuple des fils du vent.
Fils du Vent, qui est donc le nom que se donnent eux-mêmes les nomades.
Exactement. Enfin,
moi, je ne sais plus comment les nommer. Donc
oui, oui, mais de toute façon, y a tellement de noms, il y en a tellement qui leur conviennent et tellement qui ne leur conviennent pas. Fils du Vent est en effet un des noms poétiques qu'ils se donnent. Il y a toute une légende. Ils seraient en effet les fils du Vent, et finalement, ces êtres qui ont des pieds ailés, en fait.
Alors, la tragédie se noue suite à la rencontre avec un personnage qui s'appelle Joseph des Arméniens, qui est un bourgeois de la ville. La tragédie se noue aussi lors d'une soirée. Vous n'êtes pas Édouard Louis, mais ça m'amusait de faire cette comparaison osée. Mais il y a quand même dans votre roman, il y a une scène qu'on n'est pas obligé de raconter maintenant, mais où vous dites tout de ce qu'est l'humiliation sociale.
Oui.
Ça vous intéressait aussi, ça, de...
Oui, ça m'intéresse.
Frontières finalement indépassables.
Oui, ça m'intéresse énormément. Frontières qui, cependant, est étanche dans les deux sens, dans la mesure où, certes, le peuple, ceux d'en bas n'accéderont pas en haut, mais ceux d'en haut ne comprendront jamais ceux d'en bas. Et je ne crois pas qu'il y ait on pourrait faire assez hâtivement une lecture sociologique très manichéenne avec les bourgeois qui de toute façon sont mauvais et le peuple qui de toute façon est exploité par les bourgeois, avec une forme de condescendance pseudo-éducative très coloniale en fait. Et je crois que cette lecture serait trop hâtive. Je crois qu'il y a de la bassesse et de la mesquinerie vraiment des deux côtés, et aussi une forme de noblesse et de bonté honnête des deux côtés.
Joseph des Arméniens, ses motivations, elles sont nobles ?
Joseph des Arméniens, ses motivations sont bâtardes, comme tout dans ce livre. Tout est mélangé, tout est... Il y a là-dedans des choses qui infusent, qui sont plus ou moins rances. Il y a une motivation noble qui est celle d'éduquer, d'être une sorte d'Itar qui va éduquer son Victor de l'Aveyron. Et il y a évidemment une motivation moins noble qui est tout simplement le charme physique dégagé par cet enfant et qui ne laisse pas insensible Joseph, et qui évidemment, Joseph qui n'aurait évidemment pas voulu éduquer un enfant qui ne lui aurait pas sauté au désir comme ça.
Vous dites, puisque le livre est écrit à la deuxième personne, vous parlez à plusieurs reprises d'une photo, tout est parti d'une photo,
oui,
pour ce livre.
Et tout est réellement parti d'une photo. Alors je ne voulais pas insister sur le...
Parce qu'en plus, votre éditeur en met une en couverture, ce n'est pas la bonne.
Non, évidemment, ce n'est pas la bonne. Oui, oui, c'est une photo qu'on allait piocher. Oui, une très très jolie photo d'un certain Boyer, Jacques Boyer, si je ne dis pas de bêtises.
Justement, de Roulotte et d'une
famille
nombreuse avec beaucoup d'enfants.
Oui, exactement, d'un
campement
de Bieniche en Auvergne, si je ne dis pas de bêtises. Non, évidemment, je ne voulais surtout pas montrer la véritable photo d'un certain Jacob qui a en effet inspiré le livre. Ce que je dis de la photo, la description part vraiment d'une photo réelle qui m'a moi sauté aux yeux au détour d'archives.
À ce moment-là, vous avez eu envie de raconter l'histoire de ce personnage ?
Exactement, sur la photo, le garçon a bien 13 ans comme dans le livre. Il est bien mort à 15 ans du tétanos et il est bien né à la date que j'indique. Et dans
oui, parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est que ça se passe plutôt dans les années 30.
On est dans les années 20-30, exactement.
On pourrait
exactement.
Croire depuis notre conversation que c'était une histoire contemporaine. Mais
non,
en fait,
non, mais exactement, on est dans les années 20-30. Cela dit, les anachronismes que j'ai glissés tendent à faire venir cette histoire de notre côté. C'est ça que j'aime. Mais en effet, tout est parti d'une photo qui existe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler la langue de telle sorte qu'elle fasse exister la photo sans même que la photo soit présente, évidemment.
C'est vrai qu'on a presque l'impression de l'avoir vue à la fin d'avoir lu votre livre. Il y a un autre personnage dans votre livre dont on n'a pas encore parlé, c'est la ville de Clermont-Ferrand, dont vous êtes, je crois, vous-même originaire. Et
exactement.
Peut-être plus encore, peut-être que la ville, la cathédrale, voire même la pierre de Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne la connaissent pas. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, c'est quelque chose vraiment de très étrange, puisque... Clermont, qu'on appelle donc la ville noire, est construite en effet en pierre de Volvic, donc cette pierre grisâtre et très, très facilement noirâtre. Et en effet, il y a là-dedans aussi une espèce d'austérité. C'est quand même la cathédrale que Pascal a vue. C'est quand même une ville janséniste aussi, Clermont. C'est une ville qui a cette forme de rigueur, de sévérité et de sérieux. Et cette cathédrale qui domine la ville veille d'une certaine manière sur les destinées qui se nouent et qui se dénouent à ses pieds.
Mais c'est bien la cathédrale de Clermont sur laquelle il y a cette inscription très étrange. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme.
Exactement, vous la trouverez, si je ne dis pas de bêtises, au portail nord, sur le tympan du portail nord. Vous trouverez en effet cette inscription qui ne respecte pas tous les accents circonflexes. Mmh. Oui, en effet.
Qui ne respecte pas non plus les canons de l'Église.
Ah non, ça, mais là aussi il y a un mélange, il y a bâtardise finalement dans cette cathédrale gothique qui devrait être lumineuse et qui est toute noire, qui devrait être chrétienne et qui, comme ça, dès l'entrée, indique une sorte d'appartenance complètement républicaine et révolutionnaire. Oui, il y a vraiment là-dedans des choses qui se mélangent, des mystères qui s'interpénètrent et qui restent très étanches pour mon personnage principal.
On n'a rien dit de votre livre, on n'a pas parlé de son style. Alors, je vais essayer d'en lire un tout petit morceau et pardon si j'abîme votre style. On aurait adoré t'imaginer courant sous cette pluie qui se confond avec ton désespoir. Tu aurais été cinématographique terriblement, mais non, à 11h du soir, à la fin de juin, il fait à Clermont-Ferrand un temps espagnol. La vie s'attarde, la chaleur dans un déshabillé bleu nuit, lambine avec un rire de fille. C'est dur à écrire, ça ? Ça vient rapidement ? Je ne sais pas si je l'ai bien lu, parce qu'il y a une musicalité tout à fait particulière quand on le lit. Il y a un travail sur le rythme qui est très...
Vous l'avez très bien lu. Moi, je considère que si on écrit, c'est pour faire de la musique. Et qu'un style se travaille exactement comme on travaille à une sonate, où il faut que ça sonne, il faut que ça se sente. Et pour moi, vous avez dit le mot, le rythme est absolument crucial. J'ai vraiment envie qu'on entende mes phrases d'abord.
Même quand on les lit en lecture intérieure, c'est ça qui est fort chez vous.
C'est gentil, si ça marche, j'en suis ravi.
C'est ce que vous cherchez à faire.
J'ai vraiment un rapport musical à l'écriture, un rapport musical à la langue. Et en effet, j'aime l'idée qu'une langue sonne. Pour moi, les grands stylistes que j'admire, pour moi, sont d'abord des musiciens.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Simon Berger, auteur de Jacob, un roman publié au mois de mars, je crois, aux éditions Gallimard. Justement, quels sont les auteurs que vous aimez lire ?
Alors ça, c'est toujours la question.
Que vous n'aimez pas ? Alors, on
la question piège. Mais si, je l'aime. Mais alors, évidemment, on a toujours l'impression d'en oublier. Et quand on en dit trop, en même temps, ça fait Kyrielle, ça fait un peu pédant. Non, mais on a parlé des auteurs que je
plutôt dans les contemporains, par exemple.
Dans les contemporains, c'est difficile.
Parce
pour
que
moi,
vous êtes très différent de beaucoup de contemporains.
Pour moi, le grand contemporain, c'est Pascal Quignard. Pour moi, indéniablement, le grand auteur contemporain, c'est Pascal Quignard. J'aime aussi beaucoup certains livres de Michon, de Yasmina Reza. De...
Sylvie Germain, non ?
Sylvie Germain, bien sûr. Bah, dans cette,
Notamment les premiers, peut-être plus les premiers que les suivants.
Et dans l'imprégnation biblique aussi, dans le rapport très biblique à la langue. Et en effet, dans cette référence constante aux Deux Testaments, je suis d'accord. En effet, c'est un nom, ça me fait plaisir que vous le citiez, ça m'honore. En effet, oui. Et là aussi, il y a cette musique particulière du texte biblique qui, évidemment, tout de suite requiert l'oreille, quoi, qui suscite tout de suite des émotions très musicales, très organiques.
Vous aimez vivre en 2021 ? C'est la question qu'on se pose en vous lisant.
Notre président a dit que c'était difficile d'avoir 20 ans en 2020. Je ne vous dirais pas que c'est difficile d'avoir 24 ans en 2021. J'aime vivre en 2021. Comme tout le monde, j'aime beaucoup dégueuler sur mon époque, mais dégueuler sur son époque, ça requiert l'époque. Donc forcément, il faut se sentir un peu de son époque pour ça. Vivre en 2021.
Est-ce que vous pourriez écrire un roman qui se passe aujourd'hui ? Le premier parlait de Bach, le second se situe dans les années 30.
Vous ne croyez pas si bien dire. Celui auquel je travaille en ce moment se passe aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses. Je trouve que notre époque a, notamment dans son rapport à la ville et au paysage, a beaucoup de choses encore à dire à faire dire à l'écriture au niveau de l'expansion de la ville.
Vous n'êtes pas quelqu'un qui vit dans le passé et qui...
J'adore lire, donc forcément je vis dans le passé, je vis avec des morts et j'admire des morts et je vis avec eux dans une forme de... Aussi, il y a une forme de communion avec ces morts et j'aime ça, mais j'aime aussi la distance qui m'en sépare.
Vous êtes élève, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à Normalsup. C'était comment cette année à Normalsup, cette année d'études pour vous ?
C'était étrange parce qu'il y a eu beaucoup de distanciel et on a quand même besoin de... Distanciel, déjà, quel mot horrible. Mais on a besoin d'un peu de chair, quand même. Mais
l'enseignement, oui, c'est quand même...
Voilà, mais c'est toujours un plaisir. C'est quand même une sorte de petit cloître sur la montagne Sainte-Geneviève qui est...
Mais c'était fermé, c'était ouvert ?
Non, c'était ouvert.
Vous êtes resté ouvert ?
Non, c'était ouvert. Oui, c'était ouvert. Enfin, il y a eu des moments de flottement.
Vous avez eu des séminaires, vous avez pu
travailler. Oui, quand même. Surtout dans la deuxième moitié de l'année, ça a commencé à repartir un petit peu et c'est un plaisir. Oui.
Quand on a votre âge et qu'on a écrit un livre comme Jacob, on fait quoi pour la suite ? Moi, je le trouve très réussi, ce roman.
C'est
J'ai trouvé très, très réussi.
C'est très gentil à vous. Qu'est-ce qu'on fait ?
On a envie d'écrire, on a envie d'enseigner, on a envie de faire les deux.
Écrire, vraiment plus que tout, même si, évidemment, en vivre, c'est le grand rêve complètement chimérique. Mais oui, on a évidemment envie d'écrire. Moi, je considère pas, j'ai pas une très forcément une très haute opinion. Je déteste rouvrir mes livres et relire ce que j'ai laissé publier. Alors je préfère aller de l'avant et essayer de progresser et de vraiment remettre l'ouvrage sur le métier, vraiment.
Juste une toute dernière question, oui, avec une réponse très courte, oui, s'il vous plaît. C'est votre deuxième roman, mais vous en aviez écrit d'autres avant que vous n'avez pas publié. Vous en avez des cachés?
J'ai quelques fonds de tiroir qui sont très bien dans leur tiroir.
Merci beaucoup, Simon Berger. Je rappelle que vous êtes
auteur
de Jacob, publié aux éditions Gallimard. Je suis très heureux de terminer cette saison avec vous. C'était donc La Relève, proposée, préparée, présentée par Christophe. J'en fais des choses, parfois ça m'étonne moi-même. La réalisation était assurée par Camille. On vous souhaite de très belles vacances à 19h. Mais non, mais 19h, c'est maintenant. J'avais écrit mon lancement avant et aussi ma fin. Donc voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, je suis un peu perturbé. À très bientôt. Ayez la grâce.